Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour, c'est Manu Planck. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était au fin fond de l'Ouzbékistan. Il entraînait un Lucas Pouille de Challenger. Il n'y est pas resté longtemps. L'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Est-ce que tu aimes que l'on t'encourage pendant tes matchs ?» Il n'était pas obligé. Pendant 2 semaines, j'ai partagé leurs séances et leur quotidien. Nous avons toujours échangé depuis. Il m'a toujours partagé ses convictions sur le tennis et sur les conditions de la performance. Et c'était toujours passionnant. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Salut Manu Planck.
Salut Antoine.
Est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie ?
Bon, on va faire naturel, on se tutoie, non ?
Très bien, parfait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de rappeler les joueurs avec qui tu as travaillé. Et tu me dis si j'en oublie. Il y a eu Fabrice Santoro, Mickaël Laudra, Guillaume Ruffin, Axel Michon, Mathias Bourg, Lucas Pouille. Et puis depuis peu, Fiona Ferro. Est-ce que j'en ai oublié ?
T'en as oublié plein parce que j'ai travaillé dans un club et j'ai entraîné plein de joueurs, plein de gosses, plein de gamins. Et ils sont importants pour moi, même si évidemment ils sont pas... Ils sont pas tous très connus, ils sont pas tous devenus des très bons joueurs, mais malgré tout, c'était quand même des histoires qui ont compté. Mais dans ceux qui sont devenus des joueurs de haut niveau, ou qui sont des joueurs de haut niveau, non, je crois pas que tu en aies oublié, non.
J'ai eu la chance de te côtoyer en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et s'il y a une chose que l'on sent chez toi, c'est la passion. On sent que c'est une vocation chez toi d'entraîner. Comment elle est née, cette vocation ?
J'ai toujours eu une curiosité pour ce sport. J'ai commencé à jouer un peu comme tout le monde. J'ai joué des tournois. J'étais un modeste joueur négatif. Et puis finalement, je me questionnais sur à la fois sur le jeu, mais aussi sur les joueurs que je jouais. Comment, si je les avais entraînés, j'aurais pu les faire progresser. Donc c'était assez bizarre parce que j'avais finalement pas une grande une grande volonté de devenir un très bon joueur, mais j'avais quand même un intérêt pour ce jeu et pour la capacité à essayer de faire progresser les joueurs que je voyais ou que je rencontrais ou que je jouais en tournoi. Et je me posais toujours la question, et c'est resté en plus. Si j'étais entraîneur ou si j'entraînais ce joueur ou cette joueuse, voilà, comment j'essaierais de l'entraîner, qu'est-ce que je ferais progresser ou ce que j'essaierais de faire avec. Et c'est vrai que c'était très très tôt, c'est devenu une espèce d'habitude, une espèce de questionnement un peu permanent quand je voyais des joueurs jouer, même des tout jeunes quand j'étais jeune éducateur à Chatou. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à aider à l'école de tennis. Et puis un jour, assez bizarrement, mon président de club au tennis club de Chatou, j'étais prof là-bas, me dit: écoute, j'ai reçu un appel d'Odile de Roubin. A priori, on va accueillir un jeune garçon un peu turbulent. Il a déjà épuisé la Ligue de Paris, la Ligue des Hauts-de-Seine. Il habite à Rueil, donc c'est dans les Hauts-de-Seine, mais c'est très proche de Chatou. Donc il va venir s'entraîner à Chatou, et c'est toi qui vas t'en occuper. Et là, on voit débarquer un gamin de 14 ans, un peu étonnant comme ça, un peu agité. Et puis voilà, c'est une aventure qui commence avec Mickaël Laudra. Il va à l'école le matin à Feucherolles, et puis moi je le récupère l'après-midi. On s'entraîne à Feucherolles. Alors à l'époque je devais être zéro, et donc on jouait beaucoup. Il était tout juste seconde série 5-6, je crois. Et donc on jouait tous les deux ensemble tous les après-midi. Donc ça a été, on n'avait pas beaucoup de j'étais tout jeune, hein, on n'avait pas beaucoup d'écart d'âge. Donc c'était assez étonnant finalement. Et puis voilà, c'est parti de là véritablement l'entraînement de haut niveau.
On va revenir bien sûr sur ces parcours avec tes différents élèves. Quand tu commences à travailler avec Michael Laudra, donc tu dis il a 14 ans, qu'est-ce qui est important à cet âge-là? Qu'est-ce que tu recherches chez un joueur à cet âge-là?
Alors, aujourd'hui, je répondrai évidemment pas comme il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est avant tout la passion pour ce jeu, la volonté de jouer. Pas de calcul, on veut jouer, on veut jouer librement. Voilà, donc le sentiment que j'ai eu assez vite chez Mika, c'est qu'il était, il avait une idée assez claire de la façon dont il voulait jouer, qu'il n'était pas nécessaire de débattre avec lui de tout ça, mais qu'il fallait l'encourager dans cette voie. Donc il voulait jouer service volé, même à 14 ans, il jouait service volé, il était très offensif. Mais il aimait ce jeu. Alors il y avait plein de débordements sur le plan comportemental. C'était continuel, des problèmes de respect, mais en fait de maîtrise de ses émotions. Mais il avait un amour incroyable pour ce jeu et une passion incroyable pour ce jeu. Et je crois que c'est finalement la chose la plus importante au début là, quand les gamins commencent à jouer. Voilà, cet amour de ce sport.
C'est un projet fort qui est mis en place, puisqu'à 14 ans, il va à l'école le matin et l'après-midi s'entraîne. Est-ce qu'il y a déjà une ambition très haute ou elle vient en faisant?
Non, non, elle est clairement, elle est clairement installée cette ambition. Son père a été un
Ok.
joueur de haut niveau de football et il a envie de voir Mika devenir un joueur de tennis professionnel. Donc c'est clair. Moi j'en ai pas une grande conscience. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de l'aider autant que je peux, sachant que j'ai 24 ans, que je suis un tout jeune entraîneur et que j'ai aucune expérience. Même si de temps en temps, j'ai aidé Hicham Arazi, qui était aussi au club quand il était de passage. Voilà, j'avais pas d'expérience du haut niveau, très peu d'expérience dans la formation, et donc voilà, donc je faisais un petit peu ce que je pouvais avec lui, mais on avait une relation très 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 forte. Et donc voilà, on avait l'envie de jouer ensemble déjà.
Cette saison, tu as commencé une collaboration avec Fiona Ferro. Qu'est-ce que tu recherches quand tu démarres une relation d'entraîneur-entraîné?
Ce que je recherche, c'est cette espèce de pacte, en fait, qu'on peut sceller. Au départ, à savoir, ok, tu as envie que je devienne ton entraîneur, j'y réfléchis, je suis d'accord, et à partir du moment où on est tous les deux d'accord, voilà, y a pas, on regarde pas derrière, on regarde devant, on essaye d'avancer, on a une énorme tolérance pour l'erreur, pour l'échec, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est traquer le progrès quotidiennement. Le faire ensemble avec le même niveau d'énergie, le même niveau d'ambition et le même niveau d'engagement. Peu importe les résultats, peu importe les commentaires de l'environnement, l'important, voilà, c'est d'y aller, sans véritablement soucier de ce qui se passe autour. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez puissant sur le plan relationnel parce que c'est quasiment tout donné, quoi. Tout donné, sans compter. Et encore une fois, je le répète, sans tenir compte des échecs ou voire même des succès, peu importe finalement.
Je reviendrai plus tard sur cette notion d'engagement total, mais déjà sur deux réponses, tu parles donc de Michael Laudra, de Fiona Ferro, tu as entraîné Lucas Pouille, des Fabrice Santoro. Est-ce qu'il y a, à travers toutes ces collaborations, une patte Manu Planck que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont les mêmes ou c'est à chaque fois du sur-mesure?
Non, c'est à chaque fois des histoires singulières. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait reproduire une méthode, quelque chose qui ressemblerait voilà, à une méthode. Et en fait, pas du tout. C'est à chaque fois une adaptation et une nouvelle histoire avec des nouveaux ingrédients. On fonctionne pas tous au même carburant avec Fiona, c'est particulier dans le sens où c'est une jeune femme en construction avec son histoire, son éducation, ses expériences. Mais finalement, ça l'était aussi avec Lucas. Il était un peu plus jeune. Il avait juste 18 ans. Ou pareil avec Guillaume. Donc non, non, il y a pas de méthode. Probablement une éthique. L'éthique, c'est encore une fois, c'est de respecter ce pacte et cet engagement et ne jamais le remettre en question. Jamais. Voilà, il n'y a pas de. Il doit pas y avoir, suite à une défaite ou suite à une mauvaise période, une remise en question de ce pacte. C'est quelque chose de plus fort, de plus puissant que des résultats.
Tu n'avais encore jamais entraîné de femme avant cette collaboration avec Fiona. Est-ce qu'il y a des différences et si oui, quelles sont-elles dans le travail?
Des différences, il y en a probablement, dans le sens où. Le ton de la discussion ou l'intensité du discours doit probablement être différente avec une femme. J'ai pas le sentiment, mais je vais pas faire une généralité parce qu'encore une fois c'est très singulier, c'est la première fois avec une femme et je suis pas sûr qu'elle ait envie de se bagarrer contre les filles en face quoi. À la différence de garçons qui parfois un esprit un peu comme ça, bagarreur, guerrier, une volonté de montrer que voilà, ils sont sur le court, ils sont le meilleur et voilà. Il y a une autre quête, une autre recherche de dépassement, de évidemment de ses émotions. Il y a aussi probablement un truc de l'ordre de l'esthétique, voilà, bien bien jouer au tennis avec une bonne technique, une belle technique, quelque chose qui ressemble à voilà une belle technique. Je crois que c'est important pour elle. Si moi j'ai une éthique dans mon travail d'entraîneur, je crois qu'elle a une éthique de joueuse, c'est-à-dire que elle a envie d'avoir une bonne attitude, elle a envie de montrer de jolies valeurs sur le court.
Ok.
C'est important, je crois, pour elle de montrer cette image-là et de donner envie à plein de gamines de jouer au tennis, voilà, avec des choses un peu authentiques, simples, quoi.
Quelles sont ses ambitions aujourd'hui à Fiona?
La première de ses ambitions, c'est, je crois, de progresser quotidiennement.
Ok.
Elle est très cohérente par rapport à ça. C'est-à-dire que quand elle m'a appelé, on est allé boire un café dans le
Ouais.
15e, on a passé une petite heure et j'ai senti rapidement beaucoup d'intensité, de la clarté dans la définition de son projet, chaque chose était bien à sa place et le sentiment que j'avais, c'est qu'elle avait besoin de quelqu'un. Pour la guider, pour atteindre des objectifs un peu différents et franchir des paliers. Donc, ses objectifs, c'est d'abord, je crois, de développer son jeu, de développer son attitude, de développer des choses sur le plan bon, technique et psychologique. Après, est-ce qu'elle a véritablement un objectif de résultat, à dire j'ai envie de faire une. Gagner un grand chelem ou je sais pas, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas vraiment discuté. Elle a gagné des tournois puisque là elle a gagné à Palerme au mois d'août. Elle a gagné les tournois en France. J'ai pas senti du tout après la balle de match une forme d'euphorie ou une forme de satisfaction, pas du tout. Elle m'a tout de suite parlé de la suite après chaque victoire, elle m'a tout de suite parlé de la suite. Voilà, qu'est-ce qu'on fait demain, comment on s'entraîne, comment voilà où on va. Donc, je crois pas que ce soit des objectifs de résultat. C'est des objectifs d'amélioration. C'est une espèce de quête de développement, hein, un truc un peu ouais, c'est du développement personnel en réalité. C'est un truc comme ça quoi.
Et mais toi, du coup, personnellement, est-ce que secrètement tu en as des ambitions ou tu te cales sur celle de et sur les tu te cales sur l'état d'esprit de Fiona? Est-ce que toi, secrètement, tu te dis, ok, je pense qu'elle peut aller là. Je pense que et pour cela, bah voilà, on va prendre ce chemin-là. Est-ce que tu as une vision pour elle sans forcément lui en faire part?
Je crois que rien n'est impossible.
Ok.
Et peut-être que je l'ai convaincue de ça. Là, c'était un Roland-Garros un peu particulier, puisque après sa victoire à Palerme, elle a été arrêtée 6 semaines. Mais quand je dis arrêtée, c'est qu'elle n'a pas touché la raquette pendant 6 semaines, puisqu'elle avait une côte fêlée. Donc, il y avait très peu d'entraînement.
Qu'elle a contracté, juste pour revenir sur cette côte fêlée, elle l'a contracté pendant Palerme, pendant le tournoi?
Oh ouais, après le quart de finale, elle m'a dit, écoute, j'ai déjà eu cette blessure. J'ai une côte fêlée. Donc je l'ai laissé gérer, parce que je trouvais qu'elle était très clairvoyante. Donc après le quart, elle m'a dit, voilà, j'ai cette blessure. Je dis, tu veux continuer? Elle me dit, écoute, on gère au jour le jour. Elle s'est péniblement échauffée avant sa demi-finale. Je pensais qu'elle allait se retirer. Et elle y est allée, elle a eu aucun problème pour jouer la demi-finale, si ce n'est que je pense qu'elle a serré les dents et qu'elle a eu terriblement mal, mais elle en a assez peu parlé et elle pouvait pas s'échauffer avant la finale. Avant la finale, à l'échauffement, à chaque fois qu'elle frappait un coup droit, elle pleurait. Et dans mon esprit, si tu peux pas t'échauffer, tu peux pas jouer un match. Elle m'a dit non, attends, non, je crois qu'il faut que tu comprennes bien, je peux pas m'échauffer. Mais je peux jouer. Et j'étais très surpris. Elle m'a dit non, non, mais je vais y aller. Et j'ai absolument, absolument rien vu durant la finale. Absolument rien vu. Voilà, elle a rien montré. Bon, après, on est allé à Prague après la finale parce qu'il fallait se retirer pour. Il y a une forme de protocole avec la WTA pour éviter les amendes. Elle pouvait pas porter le thermobag. Hein. Donc, elle avait juste la coupe dans les mains. On a été à l'aéroport de Rome, elle avait la coupe. On a été à celui de Prague, elle avait toujours la coupe. Mais moi, j'avais les deux thermobags. Donc voilà. Mais c'était, voilà, elle s'est jamais plainte, elle se plaint pas. De toute façon, c'est son éducation, sa culture.
Pour revenir à ce que tu disais, je t'ai coupé. Tu penses que tu l'en as convaincu, tu l'as convaincu de certaines ambitions et de peut-être de certains objectifs qu'elle pouvait se fixer.
Oui, je crois que. On est un peu, nous, dans cet environnement du tennis français, un tout petit peu victime d'un état d'esprit un peu particulier. On a toujours l'impression que les choses vont être dures à réaliser, qu'on n'est pas bon, que tout ça c'est lourd, quoi. C'est lourd, qu'on est presque incapable. C'est presque devenu culturel.
C'était ma question, ouais.
C'est presque devenu culturel.
C'est culturel au tennis français ou à la France en général, ou les deux?
Alors, je connais assez peu ce qui se passe dans d'autres sports, même si j'échange avec quelques entraîneurs dans d'autres disciplines. Mais en tout cas, je peux parler de ce que je ressens. C'est lourd, c'est lourd. Assez vite, on enferme nos athlètes. On leur donne un costume de loser. Parce que la gagne, c'est pas pour eux. Les grands résultats, c'est pas pour eux. On leur dit pas pourquoi. On n'essaie pas nécessairement de développer les choses pour dépasser les manques. Mais on s'interdit beaucoup de choses. Et moi, non, je veux pas ça.
À quoi c'est dû, tu penses?
Si on est ambitieux, on est arrogant. Si on est arrogant, on est prétentieux. Je crois qu'il y a quelque chose de c'est une équation un peu comme ça. Si on évoque publiquement son ambition, en réalité, on n'a pas le droit de pas réaliser les choses. Il y a une espèce de façon d'exposer la performance en France, notamment dans les quotidiens sportifs où la défaite est tout le temps culpabilisante. On est coupable de perdre. On glorifie la victoire. Et puis après, c'est quelque chose de normal, sans soucier des ingrédients qui constituent la victoire.
Ok.
Et je crois que c'est devenu culturel. C'est devenu culturel et c'est prégnant, c'est imbibé dans notre inconscient collectif. Et il y a des gens qui font ça très bien, qui inversent le processus. Pour moi, Yannick est très bon là-dedans. Onesta, voilà, d'une façon générale, Deschamps aussi. C'est des gens qui ont des expériences différentes, qui ont probablement des visions différentes, et qui dépassent cette espèce de limite. Voilà, leur désir est plus fort que cette espèce d'ambiance négative, défaitiste. Voilà, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de voir les athlètes dont j'ai la charge être victimes de ça.
Je trouve que cette question est liée à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça se forme un vainqueur de Grand Chelem selon toi?
Non. 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 Ça se forme pas. On peut contribuer à sa formation. On peut l'aider à se développer. Mais il y a évidemment quelque chose qui échappe à l'entraîneur, au système. Pour parler du dernier vainqueur de Grand Chelem chez les garçons, je crois que c'est un tout. Bien entendu que le fait d'être allé à Nice, d'avoir rencontré Patrice Beuse, d'être monté à Paris, d'avoir rencontré Agel, ou d'avoir cette histoire avec Arthur Hache, bien sûr. Mais après, c'est quoi l'influence du déchirement, de partir du Cameroun, de quitter ses sœurs pour venir à Nice seul? C'est quoi l'influence de son métissage? C'est quoi l'influence de son papa qui a été un joueur de football de haut niveau, de sa mère qui a joué un peu au basket? Donc finalement, tout ça c'est multifactoriel, mais un système peut contribuer, peut détecter, peut accompagner, mais après, l'individu est beaucoup plus fort qu'un système, évidemment. Après, c'est pas le hasard si Yannick, derrière un garçon qui est un des meilleurs joueurs de basket du monde pendant une période, c'est pas le hasard, il y a quelque chose quand même. Donc il y a un héritage, il y a une transmission. Donc il faut en tenir compte. Après, considérer que le rôle d'une fédération c'est d'éduquer les champions et de les élever comme on élève des poules en batterie, non, ça n'existe pas, ça.
Est-ce que le rôle d'une fédération c'est pas aussi de former des êtres humains? C'est-à-dire, tu prenais l'exemple de Michael Laudra, qui est pris en charge très tôt. À 12, 13, 14 ans, il fait partie d'un giron fédéral. Mais je veux dire, ça a un impact sur sa formation. Il peut renoncer à une certaine formation scolaire, il se lance dans un projet qui est très ambitieux. Est-ce que c'est aussi la responsabilité d'une fédération que de prendre soin de ça et de l'être humain aussi?
Bien sûr. Bien sûr. C'est incontestable. Le tennis, c'est une toute petite part de la vie, qu'on réussisse ou qu'on échoue, finalement. Y a tellement de choses importantes dans une vie, et puis quand bien même vous faites une jolie carrière de tennis, à 30 ans, 35 ans, elle s'arrête, et il faut continuer à vivre, et il faut continuer à transmettre de jolies choses à ses enfants, et à être heureux, en tout cas. Donc, évidemment, cette harmonie, ce développement, il est considérablement important, et ça, c'est le rôle de... Avant d'être des entraîneurs ou des coachs, on doit être des éducateurs. Donc, on assure l'éducation sportive, mais on est parfois le relais de l'éducation des parents. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de travailler avec les parents. Parce que finalement, on va passer beaucoup de temps avec les enfants. Et on doit finalement être le relais éducatif. Donc, je le répète, des parents, mais vraiment de s'inscrire dans ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que finalement, s'ils ont envie qu'on soit extrêmement, extrêmement rigoureux sur des choses élémentaires, comme le fait de dire bonjour, au revoir, merci, systématiquement, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, et sans se substituer aux parents du tout, mais on doit transmettre des choses importantes qui resteront pour la suite. Et après, chaque entraîneur, évidemment, ou chaque éducateur, évidemment, va avoir... sa propre sensibilité et va transmettre des choses un petit peu différentes. Mais oui, l'éducation sportive, elle est considérablement importante.
Je reviens à ce que tu disais avant sur une espèce de culture de la loose. Il y a eu des moments où on pouvait lire que les Français étaient moins bosseurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti dans les faits? Parce que tu vois les autres travailler, tu vois les gens travailler toute l'année sur le circuit, tu vois les gens travailler, les joueurs et les joueuses travailler dans le centre national d'entraînement de temps en temps. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti?
Oui, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, je l'ai pris en pleine tête un jour... En 2015 à Bercy, j'avais demandé à Günther Bresnik de passer un moment avec lui. Lucas partait s'installer à Dubaï, donc on allait faire notre première pré-saison à Dubaï en décembre 2015. Et j'étais à la recherche d'un préparateur physique à ce moment-là. Et donc j'avais plein de questions à lui poser. Et donc on prend le temps dans le Players Lounge, il s'assoit comme souvent et il me dit allez, je t'écoute. Je dis, moi, voilà, Günther, voilà où on en est, avec Lucas, il s'installe à Dubaï.
Juste pour préciser, à l'époque, Günther Bresnik, c'est l'entraîneur de Dominic Thiem.
Ouais, tout à fait. Il l'a eu tout jeune, il a entraîné aussi Becker, il a entraîné Lecomte. C'est pour moi un entraîneur majuscule, et puis maintenant, c'est quelqu'un de grande qualité. Et à ce moment-là, donc, je lui explique la situation dans laquelle on est. On avait été invité par Roger sur une période un petit peu plus tôt dans l'année. Pour venir s'entraîner. Lucas avait adoré l'endroit et avait décidé de s'y installer. Avant tout, pour des raisons professionnelles, pour s'entraîner, et pas pour des raisons fiscales. Et donc là, on parle de l'organisation. Je lui dis que je cherche un préparateur physique. Il me dit non. Il me dit arrête avec la préparation physique. Le seul préparateur physique que tu veux, c'est celui que je veux. Et de toute façon, il est pris. Tu ne l'auras pas, je ne l'aurai pas, donc c'est pas la peine. C'est Pierre Paganini. Je dis oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Il me dit bon bah tu l'oublies, t'es comme moi, on oublie. Je dis ok. Il me dit tu prends un bon kiné qui va assurer la récup, mais l'essentiel se passe sur le court. Je dis quand même, nous on a, tu sais, en France on a une culture de quand même l'entraînement dissocié, même si aujourd'hui on fait beaucoup de préparation intégrée. Ah il me dit non, moi ce que je pense c'est qu'il faut passer beaucoup de temps sur le court. Il me dit tu passes combien de temps? Je lui dis, bon, on va passer 3 heures par jour. Il me dit, ouais, c'est bien, 3 heures, ok. Et je suis préoccupé quand même par l'apprentissage du service. Il faut vraiment qu'on avance avec Lucas sur ce coup. Il me dit, toi, tu fais combien de services par jour avec Lucas? Je lui dis, écoute, j'essaye d'être très rigoureux. Je veux vraiment prendre soin de son épaule. Oh, je lui fais faire 100 services, jamais plus, parce que j'ai peur de son intégrité physique. Enfin, je suis attentif à son intégrité physique, j'ai peur de lui faire mal. Il me dit, 100
services, ça fait grosso modo combien de temps de service sur un panier?
100 services, ça prend quand même du temps. Hein. Ça prend, on peut pas enchaîner sans première balle. Donc, on va faire des deuxièmes, des premières, on va travailler à petite vitesse. Oh, ça prend une petite, entre 20 et 30 minutes.
Ok.
Voilà. Mais c'est un peu fastidieux, c'est répétitif. Hein. Tu connais. Et là, je lui demande et il me dit, écoute, on fait 300. Je lui dis quoi, 300 services? Il me dit, oui, 300 services. Il me dit, là-dedans, il y a un travail éducatif à petite vitesse, pour travailler les sensations, la main, la position du coude, les orientations d'épaule. Et puis, il y a un travail de première balle, un travail de précision, un travail sur les effets. Je lui dis, mais 300, c'est énorme. Il me dit, oui, mais c'est 300 services quotidiennement. Et donc, là, malgré tout, c'est aussi un petit choc culturel. C'est 5 heures contre 3, c'est 300 services contre
5 heures de tennis
ouais.
par jour, ouais. Dominic Thiem, ouais. À l'époque.
Ouais. Assez souvent, des très très longues séances. Donc, il peut faire 4 heures, se reposer, aller courir. C'est ce qu'il m'avait dit en parlant de l'entraînement physique. Il me dit, tu trouves un pigeon, c'est pas flatteur, hein, et je m'en excuse. Tu trouves un pigeon qui va faire courir Lucas le matin pendant 1 heure. Et puis, quand Lucas en a marre, tu lui trouves un autre pigeon qui va lui faire faire une heure de vélo. Mais il me dit, le reste se fait sur le court. Je lui dis, mais arrête. Il me dit, écoute, c'est ma conception de l'entraînement. Quoi qu'il en soit, même si on partage pas toutes les idées concernant l'entraînement, en termes de volume, je crois en termes d'intensité, j'étais quand même loin du compte. J'ai essayé d'être remédiant et on a essayé d'être remédiant à ce moment-là.
Ok.
Et on a considérablement, considérablement changé. On a énormément, énormément travaillé sur ces hivers-là. Énormément. Mais vraiment, enfin, on est arrivé au stade tôt le matin, on partait tard le soir, quoi. On passait beaucoup, 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 beaucoup de temps sur le cours.
Le corps ne casse pas?
Concernant Lucas, non. Concernant Lucas, non, c'est un sacré animal. Hein. Il s'est fait mal, hein, au coude ces derniers temps, mais il est capable d'encaisser. Il est capable d'encaisser des grosses charges de travail. Hein. C'est un super athlète, un super athlète.
On va revenir un petit peu à Lucas plus tard. J'ai envie de parler de coaching et de la place de l'entraîneur avec toi. Moi, j'ai vécu ça pendant et j'ai fait que 2 ans et demi de coaching et avec mon frère, mais à haut niveau. Et ce que j'ai trouvé d'éprouvant, c'était de penser la plupart du temps à quelqu'un d'autre que soi. Je parle personnellement. Il y a une espèce d'abandon d'ego. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu ressens?
Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ouais, j'existe pas, quoi. Je n'existe pas. Je suis centré perpétuellement sur le bien-être de l'athlète. En compétition sur son bien-être, dans le sens où les moindres détails sont importants. Mais d'une façon générale, c'est vrai que je suis toujours centré sur les choses qu'il faut améliorer, comment on va les améliorer. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui travaillent avec moi, d'un préparateur mental à la diététicienne, aux différents médecins, aux ostéos. Donc, on échange énormément, mais nos échanges, ils tournent toujours autour de la même personne. C'est l'athlète, donc ouais, effectivement, il faut s'oublier, il faut savoir s'oublier. Mais pour rester en bonne santé mentale, je crois qu'il faut réussir à switcher et à faire il faut avoir la capacité finalement à passer de ce statut d'entraîneur où on s'oublie complètement au statut d'individu où finalement là voilà on commence à s'intéresser à soi, à s'intéresser à ses proches, à être disponible parce que sinon on peut pas mener une vie équilibrée. Moi, c'est une bagarre permanente. C'est permanent. Je suis obligé de faire attention tout le temps. C'est-à-dire que quand je rentre d'une longue tournée, après 5, 6 semaines, en dehors de la maison, il faut rattraper le rythme. Il faut rattraper le rythme et retrouver sa place, finalement, dans les discussions, dans le rythme de chacun, et mener une vie normale. Et si je le fais pas, d'une part, je deviens fou et je vais nuire à l'équilibre de ma famille. Donc c'est très important d'avoir cette vigilance. Par contre, sur les tournées, ouais, je m'oublie complètement. Je n'existe plus. Ouais.
Ouais, parce que t'as des enfants qui grandissent pendant ce temps-là, qui, oui, t'as ta femme qui est là, qui s'en occupe.
Exactement, exactement. Donc l'idée c'est d'être capable de hiérarchiser comme ça les choses et de consacrer le temps qu'il faut au moment où il faut. Alors, je suis en tournoi, ou sur des périodes d'entraînement à Dubaï, je suis voilà complètement complètement impliqué et à la disposition de l'athlète avec lequel je travaille, à la disposition dans le bon sens du terme. Et puis il faut être capable de switcher du jour au lendemain et voilà, je rentre à la maison, hop. Tu redeviens un père de famille, un mari, et là, voilà, il s'agit d'être un peu plus disponible. Ouais,
Oui, parce qu'il faut savoir que tu pars 10 à 11 mois par saison.
c'est ça. C'est ça. Ouais, alors c'était encore un peu plus avec Lucas, parce que lui, il s'entraînait à Dubaï, donc finalement, on s'entraînait même plus à Paris. Donc pendant les périodes d'entraînement, j'étais en voyage. Donc c'était particulier. Mais à partir du moment où il y a une vraie cohérence et que. On sait pourquoi on le fait, qu'il y a un vrai sens. Et Lucas, à travers ses efforts, donner du sens au mien, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où les efforts sont moins importants, où on bafoue un petit peu ce pacte, Bon, là, c'est différent. La plupart du temps, je m'en vais.
On sent que c'est très important chez toi, là, ce pacte dont tu t'as parlé en début de conversation. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est à cause de ça que ça s'est fini avec Lucas?
Avec Lucas, c'est particulier. Mon analyse de la situation, elle est plus simple. Bon, je peux le dire maintenant, il y a prescription. Lucas, il a gagné la Coupe Davis. Avant ça, il avait gagné des tournois. La victoire en Coupe Davis, donc c'était la dernière Coupe Davis. Enfin, l'avant-dernière Coupe Davis dans son format, mais une finale à Lille chez lui, dans un stade de football plein à ras-bord. Il a joué et gagné le dernier match, et ça a été pour lui et pour moi une émotion extrêmement violente. Moi, de le voir au centre de ce cours à ce moment-là. Et lui, de jouer ce match et de le gagner, et de gagner la Coupe Davis avec ses copains, ça a été quelque chose de très très intense. Et il venait de gagner à Vienne. Donc il gagne, après il joue à Bercy. Finalement la Coupe Davis arrive vite, il la gagne. Je crois qu'il n'a pas le temps de vraiment digérer. Derrière, on va en Australie, il est encore sur la Coupe Davis, puis les choses vont vite, il joue bien à ce moment-là, il joue bien, il fait la finale à Marseille, à Dubaï, il gagne à Montpellier, donc il enchaîne finalement en 5 tournois. Il avait fait 4 fois la finale, puisqu'il avait fait, il avait gagné à Vienne en 2017, en octobre 2017, il gagne à Montpellier en janvier 2018, il enchaîne en 3 semaines. Donc trois finales, il est top 10, et là on arrive à Indian Wells et je sens qu'il n'a plus rien à me donner. Et je le dis au préparateur physique et à Olivier Choupeau, l'ostéo, je dis il n'a plus rien à nous donner, il est râpé mentalement. Je le sens à ce moment-là, et la grande erreur c'est que je l'évoque pas tout de suite avec lui. Et je crois qu'il a du mal à me le dire, parce que là on parle du pacte, et là il sait qu'on va le rompre. Et on fait une saison comme ça. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus rien à me donner. Il tient un peu la route en Coupe Davis. Il donne tout ce qu'il a en Coupe Davis parce que ça lui tient à cœur, il y a ses potes. Mais il a plus rien à me donner. Et il me le dit finalement à Montréal. On a une discussion. Dans un box de kiné, je ferme la porte à clé. Et je lui dis, maintenant tu vas me parler. Et là, il me parle et il me dit le. Voilà. Il me dit qu'il est fatigué. Qu'il est fatigué, qu'il est presque un peu déprimé, quoi. Et qu'il a besoin de temps et qu'il a besoin de souffler. Voilà. Mais mon erreur, c'est de ne pas avoir discuté avec lui à Indian Wells et de ne pas avoir mis les choses à plat. Et d'être resté là, il est dixième. Dans mon esprit, il peut gagner Roland Garros à ce moment-là. Mais en fait, pas du tout. Il a aucune chance de gagner. Il a aucune chance de gagner. Il est complètement à plat. Il commence à être déprimé. Ça a été trop coûteux de gagner sa place pour la Coupe Davis. Donc d'aller gagner à Vienne, parce qu'il y avait Gaël qui était là et
Bien
qui aurait
sûr.
très bien pu lui prendre sa place. Il avait perdu en demi contre la Serbie, donc il n'était pas super légitime. Donc il avait fait énormément énormément d'efforts, et là c'était, voilà, c'était trop, quoi. C'était trop. Mais c'est assez c'est cette Coupe Davis, elle est assez marrante. Il y a la préparation du dernier match, ça restera, voilà, une expérience étonnante, étonnante, vraiment.
Vas-y, raconte-nous comment vous avez préparé ce dernier match.
Bah, c'est une Coupe Davis étonnante, puisque on n'a pas préparé le premier match ensemble contre David. Dans mes propos, il y a aucune. Qu'on soit bien clair, hein, il y a aucun reproche à faire. On en a très souvent discuté avec Yannick, on se voit souvent. Enfin, personnellement, je l'adore et je crois qu'il le sait. C'est la même chose avec Cédric Pioline, même si on se voit pas. On n'a pas préparé le match contre David, et puis, malgré tout, à 2-7-0, il est allé aux toilettes, Lucas, et ils m'ont demandé d'y aller, alors que j'avais pas le droit de le faire, d'aller dans le vestiaire. alors que c'était pas du tout prévu, et de lui dire quelque chose. Il était un... il me regardait, il y avait un juge de ligne à côté, donc j'avais pas le droit de parler. Et bon, il était un peu tolérant, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais j'étais très très mal à l'aise, parce que c'était pas prévu, qu'on n'avait pas parlé avant le match, que voilà. Donc j'étais très contrarié. J'en ai parlé dès le soir même à Yannick. Après le match, Lucas était vraiment très déçu parce qu'il avait le sentiment qu'il allait pas rejouer dimanche. Je l'ai attrapé après son match, il était vraiment vraiment très déçu, on était tous les deux. Je lui ai dit, écoute, jusqu'à samedi soir ou dimanche, tu vas entendre que c'est pas toi qui va jouer, mais moi je te garantis que c'est toi qui va jouer. Il m'a fait un signe de tête en me disant que c'était pas lui qui allait jouer. Je lui ai dit, écoute, écoute-moi là. Écoute-moi, je demande de m'écouter. Tu te prépares pour jouer dimanche. On en est resté là. Moi, je suis resté à Lille. J'ai regardé le match de double. Et puis le samedi soir, il m'a appelé. Yannick m'a appelé pour me dire que c'était lui qui jouait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, je voudrais qu'on le prépare ensemble. Je lui ai dit, ok, on fait comme tu veux. Il me dit, écoute, dès que le match de Joe commence, on se retrouve dans le vestiaire. Il m'a envoyé un texto au début du match de Joe. Un agent de sécurité m'attendait pour aller au vestiaire. On s'est mis au vestiaire tous les deux. Et puis là, il y avait le doc, Montalvan, qui était là, qui a été très élégant puisqu'il est sorti immédiatement en disant, oh, je vous laisse tranquille. On était tous les deux, on regardait le match de Joe. Et au départ, Lucas avait le sentiment que Joe allait gagner contre David. Donc 1-7-0. On n'est pas encore entré vraiment dans le briefing. Et à un set break, là, il me dit, je crois que je vais y aller. C'est moi qui vais jouer. Je lui dis, oui, c'est toi qui vas jouer. Ne crois surtout pas. David est très bon. Il venait de faire la finale au Masters. C'est toi qui vas devoir y aller. Là, il m'a regardé. Il m'a dit, OK. Et il m'a dit, t'en penses quoi? Et j'avais vraiment préparé le truc toute la nuit. Je le savais. Ce jour-là, j'avais une hyper conscience. C'est marrant parce que j'ai jamais peur en fait pendant les matchs, parce que bon, on peut gagner, on peut perdre, la vie continue quoi. Mais là j'avais peur parce que j'avais une forme d'hyper conscience de la responsabilité qu'il avait, et je savais que bon, s'il gagnait la Coupe Davis, c'était le rêve de sa vie, mais que s'il perdait, il avait le tatouage loser au milieu du front toute sa vie, et que le jour où il irait chercher un pain au chocolat à la boulangerie, ça chuchoterait derrière, ah, c'est Lucas Pouille, le type qui a perdu contre Steve Darcis. Et je voulais vraiment éviter ça. Et donc l'idée, c'était de dénuer mon briefing d'émotions. J'avais préparé une feuille, j'ai tracé une ligne verticale au milieu, je lui ai dit, écoute, voilà, tu vas me lister ce qu'a fait Steve Darcis dans sa carrière. Alors il était assez bon, puisqu'il avait regardé, et sans que je lui demande, il savait, je pense qu'il s'était renseigné sur le type. Il me dit, il a gagné deux grands prix à Memphis, à Rochefort. Il a un bon revers coupé et il a jamais perdu. Et il finit par me dire, il a jamais perdu un match décisif de Coupe Davis. Je dis, ok, je réagis pas. Et puis je lui dis, bon, Lucas Pouille. Et là, il me dit, waouh, voilà, Lucas Pouille, il a gagné Vienne, il a battu Nadal, il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça. Je dis, ok. Lucas Pouille, il a été combien? Il me dit, Lucas Pouille, il est 13e mondial. Je dis, ok, il l'a déjà été. Il frappe aussi fort, Darcy, son coup droit, il sert comme Lucas Pouille. Il dit non, non, non. Je lui dis, écoute, voilà. Si on est dénué d'émotion pendant 2 heures, il se passera rien. Si tu te laisses engluer et que tu commences à quitter le jeu pour aller dans l'émotion, ça va devenir pénible. Et dans ce cas-là, on jette une pièce en l'air et on ne sait pas de quel côté elle va retomber. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, pas d'émotion. De l'action uniquement. Donc, de l'action. Si tu joues, tu es un meilleur joueur. Donc, si tu rentres dans cette espèce de finale de Coupe Davis, dernier match, j'ai pas le droit de le perdre, c'est fini. Là, on est dans autre chose. Et il était vraiment d'accord avec ça. À un moment donné, il m'a fait un signe de tête, ce qui voulait dire, ok, j'ai compris. Il s'est déshabillé. Il m'a dit, ok, c'est bon. Il m'a dit, t'attends juste pour l'échauffement. Je suis sorti du vestiaire parce que le match de Joe était fini. J'ai parlé 5 minutes avec Yannick pour lui dire ce que je lui avais dit. Et il était dans un état absolument incroyable. Je crois qu'on n'avait jamais réussi à créer un état comme ça. Il y avait que l'action, pas d'émotion.
Ouais.
Il savait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et c'était très marrant puisqu'après le match, on s'est embrassé. Il m'a dit deux trois trucs assez marrants. Mais voilà, on l'avait vu, on avait un temps d'avance. C'était vraiment vraiment très très intense comme moment. Voilà. Et je suis parti après et j'étais vraiment vraiment content de qui se soit sorti de ce piège là et qu'il ait pas à supporter ça pour sa carrière et qu'il puisse voilà passer une super soirée,
ouais,
et voilà et se retrouver en vainqueur de Coupe Davis. Voilà.
T'as parlé aussi donc de cette émotion intense que t'as ressenti quand il gagne la Coupe Davis, quand Lucas gagne la Coupe Davis. Il y a un autre grand moment, c'est quand il bat Rafael Nadal sur le plus grand court du monde à l'US Open en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, c'est assez drôle. Parce que le mercredi précédent, le tournoi, on avait toujours l'habitude de faire une séance avec Rafa. Alors, c'était toujours le samedi avant le tournoi à Roland-Garros. Et pour en Australie ou à Wimbledon ou à l'US, on trouvait toujours un moment. Là, c'était le mercredi. Donc, la chance de jouer et de s'entraîner avec ces joueurs-là, c'est que souvent, on a le court assez longtemps. On le partage pas, donc on n'est pas pris par le temps. Donc là, on avait le court pendant 3 heures. Et puis, l'entraînement démarre. Et puis, Rafa, il s'entraîne comme il joue, quoi. Et Lucas, il n'y était pas vraiment ce jour-là. Il avait un petit souci d'attitude. Voilà, je dis trop rien pendant l'entraînement. Et puis, malgré tout, je me dis, c'est l'occasion, là. Il joue avec le plus grand ou un des plus grands champions de l'histoire du tennis. Il est personne à côté de Rafa. Il peut pas se comporter comme ça. Et donc l'entraînement se termine et puis on jouait sur le grand stand, le nouveau court, et là on passe dans les cuisines du grand stand et là je me fâche tout au jeu. Donc je me souviens, Pascal Valentini était derrière, je me fâche tout au jeu.
Son préparateur physique à l'époque.
Ouais. Je me fâche et là je suis pas tendre. Je crois que c'est la plus grosse engueulade. Je suis vraiment pas tendre avec lui. Il répond pas, il se bagarre pas. D'habitude, il aimait bien se bagarrer. Là, il se bagarre pas trop. Il part après l'engueulade, il part devant, 20 mètres devant. Il est fâché. On devait pas s'entraîner l'après-midi. Finalement, on a refait 2 heures avec Cilic. C'était déjà mieux. Et puis, les jours d'après, c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, finalement... il se sort de son premier tour contre Cuninelli. Mm-hmm. Il se sort encore d'un match piège contre Kukushkin, Bautista. Voilà, un match incroyable. Et là, il y a le match contre Rafa.
8e de finale.
Voilà. Et je lui dis, écoute, voilà. À l'échange, en étant passif, en l'attendant, wow, je crois que ça va être très compliqué. Donc, il y a une stratégie. C'est jouer. En étant ultra, ultra agressif. Tu peux rater tout ce que tu veux. Mais par contre, voilà, tu prends pas de débordement progressif. Tu cèdes pas de terrain. Tu le laisses pas commencer à frapper fort, bomber, à te faire reculer. Tu cèdes pas un centimètre. Donc, ça veut dire que tu vas forcément rater. Tu vas rater même beaucoup. Rater beaucoup dans un stade comme ça de 25 000 personnes, ça fait, il y a une sorte de clameur à chaque fois que vous ratez, et c'est très compliqué, notamment en début de match quand vous commencez à avoir très peur et que vous ratez beaucoup, c'est très difficile. Et il a vraiment été exemplaire ce jour-là. Il a osé rater beaucoup. Il y est allé tout le temps, et il a fini par céder. Et donc c'était un moment un peu spécial. On peut le dire, il a fait un petit malaise, Lucas, après le match. Mais ce qui était quand même intéressant d'observer, c'est que Rafa était pareil, allongé dans un coin du vestiaire, pareil. Il était mort. Il a quand même trouvé la force de se relever avec Tony et de venir nous féliciter, nous souhaiter bonne chance. C'était une élégance incroyable. Mais Lucas, voilà, il était mort. Ça a été un moment super intense. On n'en a pas fait une. On n'en a pas fait une. toute une histoire.
Mmh.
Hein. Voilà, c'est quand on s'entraîne dur et qu'on est ambitieux, il y a une forme de, pas de logique, mais oui, il y a une forme de logique à être capable de gagner ces matchs-là. En allant prendre le petit déjeuner, alors il a pas dormi avant 4h du matin, mais en allant prendre le petit déjeuner vers 1h le lendemain, il s'est aperçu que le match avait été diffusé sur les écrans de Times Square, parce que autant on mettait 5 minutes pour aller au restaurant pour prendre le petit déj puisqu'on sortait de l'hôtel, autant là on a mis un peu plus de temps puisque tous les 2 mètres il y a un type qui demandait ou une famille qui demandait un autographe ou une photo, et là il a vraiment pris conscience que ouais, il avait réalisé un truc marrant. On a un petit regret sur le match contre Gaël, c'est qu'on
en quart de finale.
Sur le plan de la récup, on a pas pu faire ce qu'on voulait exactement. C'était Labor Day, donc c'était un week-end où plein de choses étaient fermées. On avait l'habitude de faire de la cryo. Il y a pas de cryo au stade, donc il fallait aller dans une cryothérapie privée dans Manhattan, mais là c'était fermé puisque c'était un long week-end, donc on n'avait pas pu en profiter. Donc, il est arrivé sur le match contre Gaël, il était complètement cuit malheureusement, mais Gaël jouait très bien, donc c'était logique qu'il le gagne. Voilà, donc c'est vrai que c'est deux quarts, parce qu'il avait déjà fait quart à Wimbledon, avec des matchs incroyables contre Del Potro ou Tomic. C'est des souvenirs drôles, vachement intenses, ou de dépassement, où il faut aller chercher des choses incroyables, parce que à Wimbledon il jouait tous les jours, il pleuvait à chaque fois, il était interrompu, donc il avait pas de journée de repos, donc il fallait s'y remettre. C'était des longs chemins, quoi. C'était des longs chemins pour arriver là, et on a réalisé que malgré tout on était toujours qu'en quart de finale.
Ouais.
Et qu'il reste 3 matchs, quoi. Pour gagner un grand chelem, il reste 3 matchs. Donc c'est 15-7. Il faut être capable de faire 15-7 contre les meilleurs joueurs du monde à plus haute intensité. Donc voilà, on avait conscience de ce qu'il fallait faire. Et peut-être que pour Lucas, après avoir gagné la Coupe Davis, tout en sachant que il avait beaucoup beaucoup travaillé pour réussir à faire ses quarts de finale, il faudrait dans l'avenir en faire un peu plus pour réussir à gagner. Ça veut dire sacrifier encore plus de choses. Et peut-être qu'il n'avait pas envie de sacrifier ça. Et en même temps, il est propriétaire de sa vie.
Bien sûr.
Et c'est pas moi qui dois choisir les choses, quoi. Donc j'ai aucun reproche. Il sait que je n'en veux pas. Mais voilà, ça restera une aventure fabuleuse. On est très proches. Et on le restera jusqu'à la fin de notre vie. C'est la même chose avec tous les autres, mais voilà, le chemin a fait que à un moment donné on n'est plus en cohérence totale, et qu'on part dans d'autres directions, quoi.
La réponse je la connais, et puis on le sent dans ce que tu nous racontes. Il y a une question, j'ai dit sur les réseaux sociaux que je te recevais aujourd'hui, et il y a des internautes qui ont posé des questions, et il y a une question de Valérie qui demande: est-ce que tu as le sentiment d'être allé au bout de ce que tu pouvais avec Lucas?
C'est difficile, ça m'a hanté, cette question. Quand j'ai arrêté de travailler avec lui, moi je peux le dire, j'étais un peu déprimé pendant quelques semaines, parce que j'avais pas l'impression d'être arrivé au bout, mais en même temps j'ai pris un petit peu de recul, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont aidé à voir clair, parce que je tournais un petit peu en rond, donc j'avais besoin d'aide, quoi. Y a aussi quelque chose qui lui appartient. C'est un projet partagé. Tu peux pas tenir à bras le corps un athlète. T'as besoin qu'il soit proactif. S'il arrête de l'être, ton discours il est édulcoré, il est moins percutant, et les effets de ton discours et de ton travail sont moins importants. C'est difficile à dire. En tout cas, l'histoire c'est celle-là. Elle est comme ça, voilà. Mais ça n'enlève rien à l'affection, et ouais, on peut le dire, à l'amour que j'ai pour lui, et à la relation qu'on a. Je veux dire, on n'a jamais eu vraiment besoin de beaucoup se parler avec Lucas. On se regarde et ça suffit. C'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, même s'il l'a fait parfois avec moi. Je sais que c'est douloureux avec lui. C'est un gars hypersensible. Voilà, c'est une culture un peu nordique, ça, et finlandaise. Ils sont son papa du nord. Ils sont voilà, on met pas ses sentiments sur la table, quoi. Donc quand il se mettait à poil dans une discussion, c'était coûteux pour lui. Donc déjà j'en étais reconnaissant et voilà, je savais le prix que ça coûtait. Donc ouais, je peux pas répondre à cette question, mais je crois que voilà, je crois qu'il faut être capable de dire l'un et l'autre, on a fait ce qu'on a pu. Ça a été une aventure formidable, formidable. Voilà, on a perdu aussi plein de matchs. On a vécu des moments de galère incroyables. Il a été en tôle en Ouzbékistan parce qu'il avait oublié son visa. On a été dans des hôtels miteux et t'en es témoin puisque t'étais avec nous à Karchi en Ouzbékistan avec le repas unique et spaghetti, un œuf dessus, un morceau de pain. Pendant une semaine, on n'en est pas mort, maintenant on en rigole. Enfin, ça fait partie du chemin, c'est comme ça, quoi. Voilà, mais c'est des belles aventures.
C'est ça qui est beau, je trouve, et puis dans ce que tu racontes, et c'est ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai créé ce échange, c'est pour qu'on se rende compte à quel point, et tu l'as dit, tu pars 10 à 11 mois par an, à quel point les joueurs et les entraîneurs doivent t'employer le terme de se mettre à, ils doivent se mettre à poil pour mener à bien ce projet-là, c'est à quel point ce projet de vie aspire tout entier, que ce soit du côté des joueurs ou de l'entraîneur, quand on a des ambitions, quand on a un projet fort, à quel point ça aspire et à quel point rien n'est anodin.
Ouais, c'est un métier itinérant, donc par définition déjà, il y a du voyage. Alors le voyage, il t'éloigne de tes proches, mais en même temps, il te rapproche de l'athlète avec laquelle tu travailles. Donc c'est assez ambivalent. C'est-à-dire que tu construis une relation extrêmement particulière, très 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 intime, qui est exacerbée par les victoires, les défaites. Donc il y a beaucoup d'affect là-dedans, il y a beaucoup d'émotions. Tu n'as plus de vie sociale quand tu es en tournoi, ou très peu de vie affective, pas de vie sentimentale. Donc ta vie professionnelle, c'est finalement ta vie, l'ensemble de ta vie. Donc ça rend les choses très singulières. Et donc le fait d'avoir envie d'aider comme ça un athlète, quand véritablement tu as la chance de partager cette volonté, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Donc ouais, c'est très aspirant, c'est très ouais, c'est chronophage bien entendu, mais c'est surtout ça prend énormément de place, quoi. Donc il s'agit de trouver un équilibre dans tout ça pour pas devenir fou et rester en bonne santé mentale. Donc c'est une vraie quête. Pour le coup, il faut se faire aider, hein. Il faut se faire aider. Il faut, voilà. Il faut que parfois, il faut avoir des garde-fous, des gens qui disent oh, pop, pop. Attention, là, tu t'éloignes un petit peu d'une réalité. Donc, c'est un équilibre finalement, et c'est souhaitable aussi pour l'athlète qui sente que l'entraîneur reste voilà en bonne santé, qui garde un bon équilibre, voilà, que ce soit pas une espèce de tunnel comme ça où finalement il n'y a que ça qui compte. Non, non, non. J'ai appris avec les années, voilà, à prendre un peu de temps pour moi, même parfois, c'est rare, hein, mais en tournoi, voilà, j'arrive. Parfois, voilà, hop, je m'évade, tu vas voir un truc. T'es à New York, il y a toujours des trucs à voir, tu vas à Melbourne, il y a toujours des trucs. Enfin, quel que soit l'endroit, finalement. Tu vois, même en Ouzbékistan, j'ai réussi à aller voir la mosquée bleue à Samarcande. Donc non, il y a toujours des trucs. Mais bon, oui, c'est un métier particulier. C'est un métier particulier.
Ouais, ça me paraît bien. Pour finir cet échange, on se rend compte que on parle de vie, d'humain, d'aventure, de voyage, et que bah ouais, le tennis de haut niveau, ça se rapproche pas mal de la vie, je trouve.
Ouais, je crois que t'as raison. Le ouais, tout ça, la performance, c'est d'abord des aventures humaines. C'est des individus qui se rencontrent, qui ont des désirs pas tous les mêmes, hein. Je suis pas athlète de haut niveau, je suis pas joueur. Mon désir, c'est davantage tourner vers cette envie d'aider, de développer, de faire réfléchir les gens avec lesquels je travaille. Ce qui est assez intéressant à mon sens, c'est que je me nourris énormément et j'apprends énormément de choses au contact des athlètes. Ils m'apprennent énormément de choses, pas forcément sur le jeu, mais Fiona par exemple, elle, sa quête est différente, son envie, son désir est très 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 différent. Donc ça me questionne, ça me fait réfléchir. Je dois m'adapter, je dois trouver des solutions. Mais ouais. C'est la vie, c'est l'échange, c'est le partage, tu as raison.
En tout cas, on a hâte de la suite concernant Fiona et votre aventure. Merci beaucoup Manu Planck.
Merci infiniment.
Quand vous rencontrez Manu Planck, il fascine, intrigue. Je crois que l'on comprend pourquoi après notre échange. C'était bon d'être de retour au studio Load pour enregistrer cet épisode. J'en profite pour citer Adrien Noël, ingénieur du son génial, et Laurent Aquenin, le compositeur de la musique que vous entendez. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le suivre sur les réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite bon courage pour ce nouveau confinement. À très bientôt pour un nouveau numéro d'échange. Haut les cœurs et prenez soin de vous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.